Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Guère de mieux à faire que de se taire, car il n'est rien de plus grand que l'univers, messieurs. Là est bien la question du plus envieux. 3 mètres carrés de terre, respirez mon grand-père. Vous, c'est toute la planète que vous cultivez. Vos plantations de fer jusqu'aux fleurs en papier, y'a rien là-dedans qui fasse plaisir à mon nez. Onde m'aluminium, pas comme ça, oh ma mignonne. J'ai trop de campagne dans les bras pour que tu me plastifies les doigts. Et là, le ministère minimise la liberté et sûrement pas les prières qu'apprendront à tuer. On l'a laissé papoter 4 secondes en l'air, les bras se sont levés, n'ayant compris qu'un tiers. Pas militantaire, limite énervé, voire 15% votant et 42 se planquer. Pas vive la République, non ça me fout pas la trique. Je bouffrai plus vos carottes en baissant ma culotte. Car je préfère les yeux ronds de Carmen, messieurs. Là est bien la question du plus heureux.
Bonsoir, vous êtes sur Zoom Écologie sur RFPP 106.3, le premier jeudi du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité cultivée. Effectivement, si beaucoup de monde a entendu parler du sommet de Copenhague, des problèmes de changement climatique ou encore du sommet de Rio en 1992, de la convention sur la diversité biologique qui était principalement axée sur la biodiversité remarquable, et qui a permis aussi la reconnaissance des peuples autochtones, indigènes et de leur savoir dans l'utilisation et la conservation des plantes dans les pays du Sud. Les problèmes de biodiversité cultivée en France sont beaucoup moins connus et entendus, et donc c'est pour ça qu'on consacre cette émission aujourd'hui. On a 2 intervenants pour nous parler de cela aujourd'hui. Guy Kessler, qui est le chargé de mission pour Réseau Semences Paysannes de Nature et Progrès et également membre de la Confédération Paysanne. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Et nous avons ici Michel Vignat qui interviendra un peu plus tard au téléphone, qui est un paysan boulanger dans la Drôme et qui nous expliquera un peu les problèmes qu'il a rencontrés et en quoi c'est difficile de faire de l'agriculture bio aujourd'hui. Et donc voilà. Guy, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Réseau Semences Paysannes? Pourquoi vous vous êtes constitué, rassembler les organisations, les associations en une organisation, et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous travaillez qui vous semblent importantes à défendre?
Le Réseau Semences Paysannes, c'est un réseau d'organisations. Hein, on a des grosses organisations nationales de l'agriculture biologique d'abord, hein, c'est pas un hasard, hein, on a l'ensemble des organisations de l'agriculture biologique, la FNAB, les biodynamistes, Nature et Progrès, la Confédération Paysanne. Nous ont rejoint aussi dans des organisations nationales comme les Amis de la Terre, qui sont plus sur le terrain environnemental. Mmh. Et puis beaucoup d'associations plus locales qui regroupent soit des agriculteurs, soit des jardiniers, soit ce qu'on appelle des amateurs qui conservent des variétés traditionnelles, qui tous sont orientés vers l'objectif de remettre de la biodiversité dans les fermes. On a aussi tout un tas de petites entreprises, ils s'appellent les artisans semenciers, ils sont regroupés au sein de l'association des croqueurs de carottes. Ce sont toutes ces entreprises qu'on connaît, Germinance, Biogerme et d'autres, qui, Graines del País, qui commercialisent ce qu'on appelle des variétés traditionnelles, surtout en plantes potagères, quoi, mais bon, qui parfois ne sont pas si traditionnelles que ça, parce que la semence, justement, elle évolue, c'est pas toujours la même, quoi. Et toutes ces organisations ont décidé de mettre leurs moyens en commun pour que passer d'un discours sur la biodiversité à un développement réel, c'est-à-dire que les graines circulent, qu'elles évoluent, qu'elles soient sélectionnées, qu'elles s'adaptent à l'agriculture biologique, au terroir, à la diversité des lieux de production et aussi à la variabilité des climats. Quoi.
Parce que justement, les semences, les variétés anciennes, elles ne circulent pas comme on veut. Il y a les droits de propriété intellectuelle. Il y a aussi un catalogue, je crois, qui peut empêcher certaines formes d'échange ou transformer en illégalisme des pratiques d'échange et de conservation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors, on a un cadre qui est assez complexe au niveau juridique
en France.
Pour les semences. En France, c'est un cadre qui est le même en Europe et qui s'étend au niveau mondial. C'est pour ça que c'est quand même pas... pour commercialiser des semences, il faut une autorisation de mise sur le marché. Elle prend deux formes en France. La plus connue, c'est le catalogue. Une autre qui est moins connue, mais qui est la seule à exister dans d'autres pays au monde, c'est ce qu'on appelle la certification. Il faut que le lot de semences soit certifié conforme à un certain nombre de standards. Et le problème, ce sont justement ces standards, qui sont aussi pour le catalogue. Il faut que la semence appartienne à une variété. Alors, bon, on se dit a priori, variété, c'est quelque chose de très diversifié. Ben non, c'est l'inverse. Il faut que toutes les plantes qui appartiennent à cette variété soient absolument identiques les unes aux autres. Et que, quelle que soit, ça c'est ce qu'on appelle l'homogénéité, et quelle que soit l'année ou le lieu où je vends ces semences, il faut qu'elles produisent toujours cette plante qui est absolument identique à celle qui a été définie, quoi.
Ouais.
Jean-Pierre Berland parle de clones. Bon, alors c'est peut-être pas des clones au niveau botanique, mais c'est effectivement, c'est exactement comme si quand on clone des animaux. Ça pose un gros problème, notamment quand on parle d'agroécologie, d'agriculture paysanne ou d'agriculture biologique. Et ce qui explique peut-être pourquoi les associations de l'agriculture biologique sont présentes chez nous. On travaille, que ce soit des jardiniers, que ce soit des paysans, dans des terroirs très diversifiés. Les climats ils changent chaque année. Moi, au moment où je sème en début d'année, en début de saison, je ne sais pas le climat qu'il va faire. Donc si toutes mes semences sont absolument identiques, elles ne peuvent pas s'adapter toutes seules à cette diversité des terroirs. Elles ne peuvent pas évoluer pour s'adapter à la variabilité des climats d'une année sur l'autre. Donc les sélections paysannes se sont toujours appuyées.
Sur ce savoir-là.
Sur cette diversité et cette variabilité. Avec deux outils très simples pour entretenir cette adaptation locale, ben je ressème une partie de ma récolte localement et je sélectionne les plantes qui sont le mieux adaptées. Mm. Pour ça, il faut que je ressème ma récolte. Mm. Et pour garder un minimum de diversité, parce que sinon je vais perdre de la diversité et donc de la capacité à évoluer, ce qu'on appelle la variabilité, j'échange régulièrement des petites quantités de semences avec mes voisins ou des voix qui viennent de loin, puis je les réadapte localement. Mmh. Donc voilà, la semence paysanne, c'est ressemer une partie de sa récolte, c'est échanger régulièrement des petites quantités de semences. Et si je ne fais pas ça, je ne peux plus adapter ma plante à la diversité des terroirs, à la variabilité des climats. Donc je suis obligé de faire l'inverse.
D'accord.
Ça paraît stupide, mais aujourd'hui, on a les outils pour faire l'inverse. Ça s'appelle l'engrais chimique, qui est fabriqué avec du pétrole. Ça s'appelle les pesticides. Et ça s'appelle la mécanisation qui remplace le travail du paysan qui vient aussi du pétrole. En gros, ça s'appelle remplacer le travail du paysan par de l'énergie fossile qui est en train de disparaître. Mais ça, aujourd'hui, ça ne correspond plus du tout à la demande sociale. La demande sociale dit que la nourriture est empoisonnée par les pesticides et notre environnement aussi, et par les engrais chimiques. Et que le pétrole, ben, ma foi, on commence à se poser des questions, il n'est pas éternel. Peut-être bien, il faudrait qu'on travaille autrement. Mais avec les semences qu'on trouve sur le marché, qui appartiennent à ces variétés inscrites au catalogue... ben non, on est obligé de faire cette agriculture chimique qui aujourd'hui est une impasse, quoi, et quelque chose qui est une catastrophe sociale, écologique et sanitaire.
Mais alors, que je comprenne bien, en quoi finalement les pratiques paysannes, agriculteurs bio qui travaillent sur des semences bien spécifiques, qu'ils vont, ça rentre en conflit avec le cadre législatif et économique. Alors, comment est-ce qu'on les, ils sont criminalisés, est-ce qu'ils sont, comment ils sont interdits finalement, ou comment on essaie d'interdire leur savoir-faire et cet échange, la circulation de ces savoir-faire et puis des semences.
Donc, on va rester au catalogue, hein, on parlera du brevet et du certificat d'obtention végétale après. Il y a un problème avec cette réglementation pour les semenciers. C'est que les semenciers, avant d'inscrire une variété au catalogue, il faut qu'ils la sélectionnent. Et pour la sélectionner, qu'est-ce qu'ils utilisent ? Ben, ils ont utilisé les semences sélectionnées, multipliées, conservées par des générations et des générations de paysans qui ne sont pas inscrites au catalogue. Donc, il faut bien qu'ils échangent des semences de variétés non inscrites au catalogue entre eux pour faire leur travail. Ils échangent avec les universités, avec les centres de recherche, etc. Et donc, ils ont dit le catalogue ne s'applique que à la commercialisation de semences pour l'agriculture professionnelle. Ça s'appelle, hein, le terme exact, c'est en vue d'une exploitation commerciale. Ce qui veut dire que si j'échange des semences pour la recherche, pour la sélection, pour la conservation de la biodiversité, je n'ai pas besoin que mes variétés soient inscrites au catalogue ou pour le jardinier amateur. Le jardinier amateur, ce n'est pas une utilisation professionnelle de la semence, puisqu'il fait de l'autoconsommation, il mange lui-même sa récolte.
Oui, et donc...
Donc, cet espace de liberté, il existe dans la législation. Mais tout agriculteur a le droit de conserver la biodiversité, de faire de la recherche ou de la sélection.
D'accord.
Nous, on se développe dans cet espace-là. Alors, il se trouve que nous, contrairement aux semenciers, le semencier, il fait ça dans le laboratoire ou dans des stations de recherche. Bon, nous, on fait ça dans le champ qui sert à la production agricole, ça c'est clair. Mais quand on échange nos semences, et on a eu des contrôles de la répression des fraudes, et on leur a dit, mais nous, on échange des semences, on a des programmes de recherche, c'est financé aussi par la Commission européenne ou d'autres, on a des programmes de conservation qui sont dans le cadre d'un parc naturel, ou de avec le Conseil général, ou autre, c'est reconnu, vous ne pouvez pas nous interdire d'échanger nos semences. Et de la même manière, ceux qui vendent des semences pour le jardinier amateur. Alors, s'ils disent rien, effectivement, ils tombent dans le cadre de la loi générale. Il faut que la variété soit inscrite au catalogue. Mais s'ils inscrivent sur le sachet que c'est pour le jardinage amateur, pour une exploitation non commerciale, pour l'autoconsommation, on ne peut pas les obliger d'inscrire leur variété au catalogue, même pas au catalogue amateur. On a condamné Cocopelli sans lui dire qu'il pouvait très bien ne pas être condamné. Il suffisait qu'il écrive que ses semences étaient destinées au jardinage amateur.
Bon, le jardin amateur, ouais, donc là, on comprend bien l'exemple. Mais alors, du coup, pour les agriculteurs, paysans, boulangers, par exemple, là, ça devient plus difficile. Parce que...
D'une part, ils ont le droit d'échanger des semences s'ils sont dans
parce
le cadre d'un...
Parce qu'ils cherchent à commercialiser. Ils commercialisent quand même leur...
Ils commercialisent le pain.
Ouais.
Mais en dehors de ces échanges de semences qui sont quand même possibles pour la conservation ou la recherche. La loi sur le catalogue concerne la commercialisation des semences. Elle ne concerne pas l'utilisation de la semence. Elle ne concerne pas l'agriculture. Tout agriculteur, on est en République, en dehors des OGM, et tant mieux. Mais tout agriculteur a le droit d'utiliser les semences de son choix, de les semer et de vendre la récolte. Et il n'est pas du tout nécessaire que la variété... Il peut sélectionner ses propres variétés ou utiliser des semences qu'il aura multipliées à partir d'échantillons venus d'autres pays ou autres. Il a tout à fait le droit. de faire ça et de vendre sa récolte. Il n'y a aucune loi là-dessus.
D'accord.
Et il a tout à fait le droit de transformer sa récolte. Bon, dans le cadre du blé, il va faire du pain, il peut faire des colis de tomates, il peut faire des jus de fruits. Personne ne vous oblige à marquer les variétés. Alors vous pouvez le marquer, et même si elles ne sont pas inscrites au catalogue, vous pouvez marquer les variétés que vous utilisez. Il suffit que l'information soit vraie et vérifiable. Hein. Si vous dites que vous faites du pain d'une variété, vieille variété égyptienne, et puis qu'en fait vous utilisez des variétés modernes, là, on va vous dire non, là vous trompez le consommateur. Mais vous pouvez très bien, si effectivement vous pouvez amener la preuve, c'est une vieille variété égyptienne ou une vieille variété locale. Dans le Luberon, on a le blé Meunier d'Apt. C'est une variété qui n'est pas inscrite au catalogue. Il y a une marque commerciale qui est développée par le parc du Luberon. Et c'est tout à fait légal. Il n'y a pas de loi. Il n'y a rien qui est interdit. On nous fait croire que c'est interdit, mais ce n'est pas du tout interdit.
D'accord. Alors je vais prendre juste, je vous coupe juste 30 secondes, Guy. Est-ce que c'est possible de voir s'il est en ligne? D'accord, il faut qu'on continue alors.
Donc je suis là, oui. Est-ce que vous m'entendez?
Ok, est-ce qu'on peut parler un peu plus de... est-ce que vous voulez bien parler de la mutagenèse parce que vous avez écrit quelques articles là-dessus, Guy Kessler, sur justement... quelque chose comme la face cachée finalement des OGM, puisqu'il y a eu un moratoire donc, sur les OGM Monsanto qui sont de la transgenèse. Et donc qu'est-ce que la mutagenèse et en quoi c'est finalement encore beaucoup plus peut-être dangereux que la transgenèse, puisque là c'est beaucoup plus invisible.
Si vous voulez, la mutagenèse... Hein. Il y a énormément de mutations naturelles, hein, je veux dire. C'est un phénomène naturel. On échange des gènes aussi, hein, donc... entre organismes vivants. Mais la mutagénèse, ça consiste à provoquer de manière délibérée, avec des agents physiques comme les rayons au cobalt d'autres rayons ionisants, hein, les mêmes que les centrales nucléaires, ou des produits chimiques assez violents, à créer un stress sur une cellule pour faire muter des gènes qui sont déjà présents dans la cellule.
D'accord.
Donc on ne va pas prendre un gène dans un autre organisme pour l'introduire dans la plante, on utilise le réservoir génétique de la plante.
Oui.
Mais cette opération, à partir du moment où on utilise non pas des mutations naturelles qui se produisent au champ, mais ces agents physiques de rayons ionisants ou des produits chimiques, ce n'est plus une mutation naturelle.
Oui.
Et donc ça correspond exactement à la définition légale d'un OGM, telle qu'elle était déjà faite dans les directives de 90 et qui est reprise dans la directive de 2001. C'est un organisme vivant qui est issu de manipulations génétiques par des techniques de multiplication ou de croisement ou de sélection non naturelles. C'est pas naturel d'arroser avec de la colchicine des cellules dans une boîte de pétri, dans un laboratoire, ou de les soumettre à des rayons ionisants. C'est pas naturel.
Mais justement, là où j'ai été frappé, c'est que vous, en fait, l'Agence internationale d'énergie atomique, je crois, est partie prenante de la mutagenèse. Elle s'y intéresse beaucoup. Et c'est assez étonnant puisqu'elle s'occupe d'énergie atomique. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ça peut intéresser les antinuques, afin de comprendre comment
l'agence
s'intéresse à l'agriculture.
Internationale de l'énergie atomique a effectivement une convention avec la FAO, qui est l'agence pour l'alimentation hein, de l'ONU, mais tout simplement parce qu'on utilise les mêmes techniques que dans les centrales nucléaires pour faire muter... pourquoi il y a des problèmes avec les centrales nucléaires? Pourquoi les gens de Fukushima, ils ont des problèmes et qui deviennent malades, c'est parce que leurs gènes mutent sous la pression des rayons ionisants issus des centrales nucléaires.
D'accord.
Donc on utilise les mêmes techniques. Et comme c'est des gens qui veulent développer le nucléaire, tant mieux si le nucléaire se développe en agriculture. Alors il se trouve que dans la réglementation, on dit c'est un OGM, mais c'est un OGM auquel la réglementation ne s'applique pas. La conséquence... la conséquence du fait que ça ne s'applique pas, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation.
Ouais.
Donc on ne sait pas si c'est dangereux pour la santé ou pour l'environnement.
Ouais.
Il n'y a pas d'information du consommateur. ce sont des OGM. Eh bien nous, on ne le sait pas quand on les cultive. Mais en agriculture biologique, par contre, ça pose un gros problème, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des OGM, et on en utilise sans le savoir. Et puis, bon, peut-être qu'il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout, parce que, surtout, ce qu'il y a derrière cette dissémination de gènes mutés, il y a une dissémination des brevets qui les protègent.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être même une dissémination, même dans les champs bio, finalement
Ben, vous prenez l'ensemble des riz de Camargue aujourd'hui ont été obtenus par mutagénèse avec des rayons ionisants. C'est indiqué nulle part. C'est des obtentions INRA. Il y a du riz bio de Camargue. Et aujourd'hui, on n'a rien d'autre. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème sérieux. C'est qu'il faudrait en plus qu'on sélectionne peut-être d'autres riz, ou alors qu'on accepte d'avoir des OGM. Mais ça, nous on n'en veut pas. Quoi. Mais moi, je veux bien qu'on évalue ces OGM qui ne soient pas dangereux. Le problème principal des OGM, c'est le brevet. Parce qu'on a deux types aujourd'hui d'outils juridiques pour s'approprier les semences. On a le certificat d'obtention végétale qui protège la variété inscrite au catalogue. Tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, homogène et stable. C'est un gros avantage, je n'ai pas besoin d'indiquer comment j'ai fait l'invention. Dans le brevet, je suis obligé d'indiquer l'invention. Donc si je fais de la mutagénèse, si je dépose un brevet, celui qui va acheter mes semences, il va savoir que c'est de la mutagénèse. Ouais. Mais si je dépose un certificat d'obtention végétale sur la variété, je la décris, je n'ai pas besoin de dire ce qu'il en est.
D'accord.
Bon. Après, j'ai dedans un gène qui est...
Excusez-moi, je veux juste savoir, est-ce qu'on peut parler... D'accord, en fait, on va continuer. Excusez-moi, je vous ai coupé.
Oui, après, je m'arrête. J'ai dedans un gène qui est breveté, mais celui qui a déposé le brevet, il l'a déposé à un office des brevets qui est à Munich, en Europe. Il n'a pas du tout dit dans quelle variété il l'a mis. Il n'a pas du tout dit dans quelle espèce même il l'a mis. Il a dit, moi, je pose un brevet de gène résistant à un désherbant.
Ouais.
Point. Donc, le résultat, c'est que j'ai un brevet qui se balade dans la semence que j'achète. Je ne le sais même pas. Mais celui qui est propriétaire du brevet, lui il le sait. Ouais. Et s'il veut revendiquer ma récolte... Et si demain, mon voisin... imaginons que moi...
Ça ne s'est toujours pas présenté. Si
Ça ne s'est pas présenté encore en Europe.
La question.
Ça ne s'est pas présenté en Europe. Aujourd'hui, ça se présente aux États-Unis.
D'accord, déjà.
Aux États-Unis, les propriétaires de brevets revendiquent le droit des brevets, pas que sur les OGM, mais aussi sur ce type de plantes. Pour eux, c'est la même chose.
C'est en Inde aussi, non ? C'est pas le même cas en Inde ?
En Inde, c'était de la transgénèse. Hein.
Ouais,
donc, c'était pas de la mutagénèse, c'était de la transgénèse. Mais le problème du brevet est exactement le même.
Oui. Quel que soit le processus.
Ça, c'est le problème essentiel. Parce que si nos récoltes appartiennent à des détenteurs de brevets, qui c'est les détenteurs de brevets aujourd'hui ? Vous avez moins de 10 multinationales au niveau mondial. Ça veut dire que toutes les semences, aujourd'hui, sont en train petit à petit d'appartenir à une dizaine de sociétés transnationales. Mais celui qui détient les semences, il détient le droit à l'alimentation. Il détient la souveraineté alimentaire, mais il détient la souveraineté politique. Parce que si quelqu'un ne peut plus avoir de semences pour manger, il va se soumettre.
Et alors, quelle relation y a-t-il entre ce que vous venez de décrire et avec les banques de conservation dont vous parlez d'ailleurs, une qui a été en Norvège, en 30 secondes, en Norvège, qui a été financée par la fondation Bill Gates et peut-être Rockefeller, je ne sais plus. Enfin, ça veut dire...
Ben, si vous voulez, cette banque... Bon. Aujourd'hui, les semenciers, ils font des semences avec des semences. Elles ne tombent pas du ciel.
D'accord.
Hein, ce n'est pas des créations complètes. Donc, ils utilisent toutes les semences qui ont été sélectionnées et conservées par les paysans depuis des millénaires. Ils les ont mises dans un frigo pour les conserver le plus longtemps possible. Si on ne ressort pas régulièrement ces semences du frigo pour les replanter, elles perdent leur capacité de germer. C'est-à-dire qu'elles ne pourront plus jamais servir de semences. Bon. Et là, c'est bizarre. Ils ont mis toutes les semences du monde en Norvège, dans un frigo, ils ont dit « on ne les ressort plus ». Donc elles n'auront plus la capacité de germer. Mais pourquoi ils font ça ? C'est qu'aujourd'hui, on commence à fabriquer des gènes par synthèse chimique.
D'accord.
C'est-à-dire que ce n'est plus le gène naturel. Quand on vous vend un OGM BT qui produit un insecticide, ce n'est pas le gène de la bactérie BT qui est dans le maïs. C'est un gène qui a été fabriqué en laboratoire par synthèse chimique. Mais pour fabriquer ces gènes par synthèse chimique, il faut avoir la séquence génétique des gènes naturels qu'on copie. Donc, en fait, une graine morte, ça ne va jamais germer. Mais une graine morte, c'est tout à fait suffisant pour refaire la séquence génétique des gènes réels qui existent dans le monde vivant et les refabriquer de manière synthétique.
Et c'est ça, donc, les banques de conservation, en fait.
C'est à ça que ça sert.
D'accord.
Alors, c'est ce qu'on appelle la biologie synthétique. Mmh. C'est-à-dire qu'on refabrique un vivant complètement artificiel. Ouais. C'est Matrix, quoi, hein, quelque part, pour ceux qui ont vu ces films-là, quoi. On refabrique un monde vivant complètement artificiel. On ne sait pas encore... On le fait un petit peu, mais ce n'est pas encore vraiment viable. On bidouille en ce moment. Mais c'est bien le projet.
Ouais.
Et donc, on voit très bien vers quoi...
L'orientation.
Hein. L'orientation de toutes ces lois du brevet, du certificat d'obtention végétale et du catalogue, c'est supprimer le monde réel pour le remplacer par un monde artificiel fabriqué, mais sur lequel on a des brevets, on a des droits de propriété.
C'est très baudrillardien, ce que vous venez de décrire, hein, cette suppression du réel et qui est... remplacé par une logique du signe et de la manipulation opérationnelle. Quoi.
Pour conclure, il ne faut pas s'affoler, ils sont loin d'y arriver techniquement. Donc on a encore, et puis tant qu'on a une semence entre les mains, on peut la multiplier et refaire de la biodiversité. Et c'est pour ça que le réseau Sens Paysanne existe et que des paysans boulangers existent et que des jardiniers amateurs existent. Donc on a encore tout entre nos mains. Et c'est un petit peu un château de cartes qu'ils sont en train de nous vendre en face, quoi. Mais il faut pas être aveugle, il faut pas être naïf. Leur projet, il est quand même bien là.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Guy Kessler. Donc c'était Guy Kessler de Réseau Semences Paysannes qui nous a fait, qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous pour nous parler des problématiques autour des semences. Et nous le remercions très vivement et nous espérons qu'on nous aura l'occasion de l'avoir sur d'autres prochaines émissions. Nous, on va continuer de notre côté. Merci beaucoup, Guy. Au revoir.
Au revoir.
Donc là, on va mettre un petit morceau, une interlude musicale. C'est Fanch, donc c'est la deuxième, qui s'appelle Carmen. Et Fanch, c'est un petit artiste de Rennes. Et voilà, c'est sympa à écouter. Vous pouvez le retrouver sur son site, en tapant Fanch. Merci.
Naguère de mieux à faire que de se taire, car il n'est rien de plus grand que l'univers, messieurs. Là est bien la question du plus envieux. 3 mètres carrés de terre, respirez mon grand-père. Vous, c'est toute la planète que vous cultivez. Vos plantations de fer jusqu'aux fleurs en papier, y a rien là-dedans qui fasse plaisir à mon nez. Onde m'aluminium pas comme ça, oh ma mignonne. J'ai trop de campagne dans les bras pour que tu me plastifies les doigts. Là, le ministère minimise la liberté et sûrement pas les prières qu'apprendront à tuer. On l'a laissé papoter 4 secondes en l'air. Les bras se sont levés, n'ayant compris qu'un tiers, pas militantaire, limite énervé, voire 15% votant et 42 planqués. Pas vive la République, non, ça me fout pas la trique. Je bouffrai plus vos carottes en baissant ma culotte. Car je préfère les yeux ronds de Carmen, messieurs. Là est bien la question du plus heureux. Thank you.
êtes sur Zoom Écologie RFPP 106.3. Nous avons un second intervenant pour nous parler de l'agriculture biologique, Michel Vignat. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Michel. Donc, je suis désolé hein, du problème que nous avons rencontré. Tu devais initialement parler au début de l'émission et donc tu interviens après Guy qui vient de quitter le plateau. Michel Vignat, donc tu es paysan boulanger depuis combien de temps déjà ?
Ça fait 3 ans que je suis installé.
Ça fait 3 ans que tu es installé. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as procédé justement pour monter pour devenir paysan boulanger ? Comment ça s'est passé ? Les difficultés que tu as rencontrées et en quoi parfois tes pratiques peuvent rentrer en conflit avec l'organisation nationale, législative de tout ça, quoi.
Les défis que j'ai rencontrés, c'est souvent l'accès à la terre, le montage du projet, puisque moi je pratique une activité sur laquelle je fais plusieurs activités en fait, puisque je cultive les céréales. Mmh. Je les transforme, et donc pour les transformer, je les stocke.
Ouais.
Et je les transforme en pain que je vends moi-même en direct à des consommateurs.
Ouais.
Donc ça fait plusieurs activités sur la même activité.
Et tu gères tout seul en fait de A à Z.
Voilà. On n'est jamais tout seul. Hein. Je suis dans un réseau d'agriculteurs, j'ai des voisins, donc il y a toujours un peu d'entraide.
Et ce réseau d'agriculteurs, il s'intitule comment ? Enfin, vous avez donné un nom, vous avez une asso ou
Non, c'est d'accord, un réseau social humain.
Oui, d'accord.
Peut-être pas dans certains coins, malheureusement, mais c'est les voisins, quoi. On vit dans une société où on a des voisins, et on est tous là pour s'entraider.
D'accord. Oui, mais c'est très bien. Mais les assos aussi, hein, ça reste humain aussi, les assos, des fois, pour se faire entendre. C'est pour ça que je te posais la question.
Tout à fait, non, mais ça, pas du tout dans le cadre d'associations où, si, par exemple, il peut y avoir des CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Oui.
Voilà.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes, en fait, pour cultiver tes propres variétés. Pourquoi d'ailleurs tu décides de travailler sur des variétés anciennes et pas sur des variétés qui sont forcément inscrites sur le catalogue ?
Bah, je pense que je vais pas revenir sur tout ce qu'a expliqué Guy Kessler tout à l'heure. Il a été suffisamment clair là-dessus. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Et le vivant, il évolue.
Ouais.
Il est divers, d'où la diversité. On appelle aujourd'hui la biodiversité. Et donc voilà ce qu'expliquait Guy Kessler tout à l'heure sur une variété, elle évolue dans un champ, et alors que dans un laboratoire ou un frigo, elle n'évolue plus, quoi. Et les variétés modernes, elles n'évoluent pas, puisqu'elles sont par définition fixées. Et, voilà. Et puis ensuite, au niveau nutritif, on obtient des variétés modernes qui deviennent qui produisent des hauts rendements, qui ont des fortes valeurs boulangères, donc des qualités hein, pour faire du pain, des pains très aérés, etc.
Ouais.
Mais qui, au niveau
nutritif
et santé, je pense, ont perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler des problèmes d'assimilation du gluten, notamment.
Mmh.
Je pense que l'évolution des variétés est une des raisons de ces problèmes-là, quoi. Peut-être pas la seule, mais...
Oui, oui.
Donc voilà, et puis nos ancêtres nous ont transmis de génération en génération un savoir-faire et des variétés qui sont sélectionnées avec patience. Et elles ont toute leur richesse et leurs intérêts.
Oui, oui.
Et en quelques décennies, des laboratoires ont récupéré ça pour développer des variétés qui ont sûrement aussi des intérêts, mais qui ne m'intéressent pas beaucoup.
Oui, oui.
Voilà.
Et en fait, qu'est-ce que tu faisais avant d'être paysan boulanger ? Parce que ça peut être intéressant pour les auditeurs et les personnes qui s'intéressent à l'agriculture bio, de comprendre comment on fait... comment on fait ou quelles sont les difficultés qu'on a hein, pour devenir agriculteur bio. Tu faisais quoi comme...
Je ne vais pas m'étaler sur ma vie. Donc moi,
non, mais...
Je travaille dans l'industrie, donc Donc voilà, j'avais une toute autre activité.
Ouais, ouais.
Et je travaillais dans un bureau d'études.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, j'ai eu un déclic, envie de faire autre chose, de travailler dehors, de travailler, d'avoir un lien avec le vivant, avec la nature.
Et cette aire de lien qui t'a permis, c'est ça, de pouvoir mettre en place ce projet ? Tu peux en parler peut-être de cet assaut ?
Ça a été une des structures qui m'a permis de m'installer, effectivement, mais une installation, c'est effectivement tout un parcours et un chemin de vie, mais il n'y a pas de recette, et puis chacun vit son parcours différemment, donc c'est difficile de généraliser.
Oui, non, mais il ne s'agit pas de généraliser.
Moi, effectivement, ouais. Je suis fermier de l'association Terre de Liens sur une partie des terres,
ouais.
C'est-à-dire que je loue, ce qui m'a permis de ne pas avoir à acheter des terres qui
coûtent énormément, très cher.
C'est quand même des investissements importants, surtout pour faire des céréales, quoi.
Oui, tout à fait.
Puisqu'il faut vite des hectares. Donc des surfaces assez importantes pour cultiver, quoi.
Oui.
Voilà.
Et du coup, est-ce que, comment dire, t'es embêté par la législation la législation sur les semences, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te causer des problèmes sur tes pratiques ou au contraire tout va bien et est-ce qu'il y a des choses pour toi qui seraient importantes d'être améliorées ou d'être mis dans l'espace public, quoi, discuté dans l'espace public, hein.
Tout ce qu'a soulevé Guy Kessler, évidemment, mais bon, moi je vais pas rentrer là-dedans et je suis pas suffisamment compétent pour ça. Donc moi non, j'ai pas de problème particulier parce que voilà, je fais mon travail le mieux que je peux en essayant de fournir un produit de qualité à des clients avec lesquels j'ai des contacts directs.
Ouais, ouais.
Et donc auxquels j'explique ma façon de travailler, la façon dont j'aborde l'activité de paysan, de boulanger, la façon dont je cultive, la façon dont je boulange, etc. Donc j'ai plutôt des retours positifs et ce contact-là, il est riche et on travaille, on va dire, en transparence, quoi, sur nos pratiques. Donc non, je suis pas embêté. Et puis je pense pas que je sorte particulièrement du cadre législatif, puisque Guy Kessler l'a expliqué là-dessus. Donc moi, effectivement, je ressème mes variétés. J'en ai multiplié, j'en multiplie. Voilà, mais je n'en vends pas, je transforme tout.
Ouais, et alors justement, tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemble ta journée du coup, parce que, à la fois produire son blé et le transformer, c'est un sacré boulot. Enfin, tu t'organises comment du coup, en termes de taf?
Eh ben, je m'organise comment? Chaque jour est différent. Et certaines journées, on est au four et au moulin. C'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire, oui.
Voilà. Voilà, il y a des jours, je m'occupais des champs. L'avantage, c'est que la culture des céréales ne demande quand même pas un travail quotidien tout au long de l'année, comme par exemple les légumes. Il y a des périodes de travail sur les céréales, mais il y a des périodes où il n'y a rien à y faire. Donc voilà, après il y a beaucoup la construction, l'amélioration du matériel, l'entretien, faire la farine évidemment, ça prend du temps, faire le pain deux fois par semaine, qui sont des grosses journées, il faut se lever tôt, et puis la vente du pain. Donc,
et donc
voilà, toutes les activités.
Ouais, et du coup le pain tu vas le vendre quoi, sur une place, non, tu le livres.
Ouais, c'est variable, soit sur commande. Ouais. Soit à travers du réseau des AMAP, donc
ouais.
Dont vous avez peut-être déjà parlé dans votre émission.
Pas dans le jeudi, mais bon.
Voilà. Marché, effectivement, marché de plein vent.
Ouais.
Voilà, mais bon, les quantités sont pas très importantes. Hein. Moi, le but, c'est de pouvoir valoriser ma production. La production que je peut arriver à faire sur la surface que j'ai.
Et tu te retrouves pas dans de la perte? Enfin, il n'y a pas de gâchis, c'est-à-dire que tu arrives vraiment à utiliser tout le blé que tu récoltes, hein, que tu cultives.
Oui, oui, bah, j'essaie de me caler par rapport à ce que je... Tout à fait, oui.
Ouais, d'une année sur l'autre, donc ça doit bouger pas mal, j'imagine.
Oui, mais on s'adapte hein, d'une année sur l'autre. Et puis les céréales se conservent quand même. Donc on peut les garder un an et demi, deux ans.
Ouais.
Problème, donc d'une année sur l'autre, il y a tampon.
Ok. Voilà. Je crois que tu t'étais mis, enfin, je sais pas si on peut en parler, que tu t'étais mis en collaboration avec d'autres personnes bio pour le vendre en fait tes produits. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est un truc qui fonctionne bien comme ça de se mettre en association avec d'autres personnes ou?
Tout à fait, oui. J'imagine que tu parles de magasin de producteurs.
Ouais, ça doit être ça.
Voilà, donc c'est des structures qui se développent pas mal, en tout cas dans notre région. Donc c'est des différents agriculteurs qui produisent donc des choses différentes, légumes, charcuterie, produits laitiers, fruits, etc. Et donc qui se regroupent au sein d'une structure. Pour tenir un magasin ensemble, quoi. Donc tenir le magasin tour de rôle, et du coup, le magasin peut proposer des produits locaux.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une biocoop, c'est ça? C'est encore différent? C'est encore un...
Non, le magasin appartient aux producteurs eux-mêmes.
Ah oui, donc c'est encore une autre manière de détourner comme ça les grands trucs de distribution, même biocoop.
C'est une activité
biocoop,
en plus, puisque... Ça prend du temps quand même,
bah ouais.
Gérer le magasin.
Parce qu'en plus, tu gères, en fait, si j'ai bien compris, en plus, tu te retrouves à gérer à un moment donné les produits, à vendre les produits de tes potes, je sais pas comment on pourrait dire
collaborateurs.
Ça. Ouais, collaborateurs, voilà.
Ou associés.
Voilà,
associés sur une structure de vente, oui, tout à fait. Mm. Donc à tour de rôle, chacun va tenir le magasin pour...
Et du coup, ça demande une connaissance des produits de ton associé ou pas forcément?
C'est bien de connaître un petit peu le produit des associés, oui. Je pense que ça permet de mieux renseigner les consommateurs et de mieux les valoriser aussi, quoi.
Et alors, du coup, vous vous retrouvez à vendre quoi dans ce type de magasin? C'est quoi? C'est du picodon, donc du pain, enfin, toutes sortes de choses?
Il y a plusieurs structures dans la région, donc ça dépend des associés. Il y en a qui sont 10, il y en a qui sont 15. Donc, oui, ça va du fromage aux fruits, légumes, pain, œufs, viande, produits transformés, confitures. Voilà, j'en oublie sûrement.
D'accord. Et du coup, comment tu le récoltes en fait? À quel type d'appareil? C'est avec un appareil mécanique que tu récoltes tes
Oui, tout à fait, oui, nous sommes quand même mécanisés puisque. La surface de la ferme, c'est à peu près 22 hectares.
Ouais.
Donc sur les 22 hectares, il y a évidemment des rotations de culture, c'est-à-dire on fait des assolements qui permettent de faire succéder des cultures différentes, pas que les mêmes cultures reviennent sur la même parcelle année après année, ce qui se pratique souvent en agriculture conventionnelle. Et donc, puisque malgré tout, ce qu'on pratique, c'est de la monoculture, hein, puisque sur un même champ, je vais avoir une espèce, quoi, hein, donc un froment ou une luzerne, mais donc au moins d'année en année, les familles de plantes changent.
D'accord.
Voilà, donc sur ces 22 hectares, il y a à peu près 5 ou 6 hectares de céréales chaque année, et le reste, c'est soit en oléagineux, soit en prairies temporaires, donc des légumineuses telles que la luzerne ou le sainfoin, qui vont servir ensuite pour des bêtes, comme pour du fourrage.
Ouais.
Et donc tout ça c'est fait mécaniquement, oui, donc avec des tracteurs, des outils, mais tout en essayant de réfléchir à comment respecter au mieux le sol et surtout la vie du sol, puisque la santé des plantes vient essentiellement de la bonne structure et donc de la bonne vie qui peut y avoir dans le sol.
Oui, tout à fait. Ouais. Dépend des facteurs, facteurs et des filtres.
Les céréales sont ensuite récoltées avec une moissonneuse-batteuse.
Je te pose cette question parce qu'en fait, une fois on a fait une émission sur le droit des animaux, hein, sur les véganes, les végétariens. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui essaient de revenir à la traction animale. Et pour essayer effectivement de détruire le moins possible le sol et de le respecter le plus possible. Et en même temps, la traction animale, ça peut rentrer en conflit avec effectivement avec l'idée de respect du droit des animaux. Et c'est pour ça que je te posais cette question. Et est-ce que toi d'ailleurs t'envisages un jour d'aller à la traction animale, ou est-ce que c'est pas trop efficace, ou ça complexifierait ton travail?
Bon, alors deux choses. Moi, effectivement, j'avais ce projet-là au départ il y a quelques années, de travailler en traction animale. Mon projet c'était du maraîchage, donc. Sur un hectare, je pensais tout à fait envisageable. Ensuite, cultiver une vingtaine d'hectares tout en traction animale, sachant que j'ai des terres très difficiles, en pente, ça devient du sport.
Bah ouais.
Voilà, donc après, je pense pas qu'il y ait un conflit entre les machines et la traction animale, elles peuvent être complètement complémentaires. La traction animale a ses intérêts, et le tracteur a ses intérêts. Après, il faut arriver à trouver les limites de chacun.
Sans forcément tomber dans la diabolisation de la mécanisation, quoi, hein, de l'agriculture.
Voilà, tout à fait. Moi, je veux bien diaboliser la mécanisation, mais après, tous les gens qui me soulèvent ce problème-là, je leur dis, venez moissonner avec moi à la main, il n'y a pas de problème.
Ben oui, tout à fait, ouais.
Les gens, ils ne sont pas forcément prêts à se lever à 5 heures et à travailler 14 heures par jour.
Ouais. Il y a très peu de personnes qui le font.
Voilà, mais donc il faut aussi essayer d'être en cohérence avec ses propos et ce qu'on est prêt à faire.
Ouais, tout à fait, ouais.
Voilà. Ensuite, le bien-être animal, là, bon, juste une parenthèse, beaucoup de gens que je connais qui travaillent en traction animale, en général, pour avoir un bon contact, bien travailler avec un animal, il faut le respecter.
Ouais.
Et tout comme on pourrait faire avec les plantes. Et donc,
absolument, ouais.
Donc, je pense pas qu'il y ait du mal-être animal de le faire travailler. Le cheval, s'il le fait, il le fait sûrement avec grand plaisir. Et il le fera d'autant mieux. C'est comme avec un chien, avec tout animal. Donc, quel est le bien-être animal? Est-ce que c'est complètement laissé sauvage ou alors un chat et un chien qui se retrouvent dans un appartement, on pourrait dire que c'est du mal-être animal.
Absolument,
il est plus dans son élément.
Mais ouais, tout à fait. Donc après, on peut renvoyer dos à dos, effectivement.
Donc ça peut aller très loin. Donc non, le bien-être animal, l'attraction animale, je pense pas que elle a quel que soit de lien avec le mal-être animal, quoi.
Et qu'est-ce qui a guidé vraiment, je sais pas si tu l'as vraiment bien précisé, mais j'aimerais essayer de comprendre, qu'est-ce qui a vrament guidé en fait ton souhait de devenir paysan boulanger? Est-ce qu'au départ c'était des problématiques écolo, environnementales, ou d'agriculture bio, de bien manger, de faire les bons produits, ou au contraire c'était plus un engagement autour du respect de l'environnement, de montrer qu'il y a d'autres modèles de production, de consommation possibles?
C'est ça, oui. Un peu tout.
Un peu de tout.
Un peu tout, mon lien au vivant, ce que j'avais envie de faire moi, le lien à ce que je mange. Voilà, je pense que j'ai pris conscience petit à petit de la problématique de comment était produite la nourriture que nous mangions.
Mmh.
Comme disent certains, nous sommes ce que nous mangeons. Donc voilà, j'avais envie de moi-même avoir un retour au concret, à ce que nous mangeons, ce que nous produisons. Et puis ce lien à la nature et au vivant, quoi.
Ouais.
Travailler dehors, travailler avec tous ces éléments. Et puis la diversité de l'activité, quoi. Des différentes des activités au sein de mon activité, quoi.
Et donc du coup, est-ce que tu t'es complètement retrouvé là maintenant dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs qui y pensent depuis quelques temps et qui en même temps hésitent à se jeter, de ne pas le faire, surtout de ne pas se jeter dans ce genre d'entreprise ou
Est-ce
que c'est hyper... Il faut être courageux, ouais. Il faut être fou un peu.
Un peu fou, ouais, peut-être. Qu'est-ce que la folie Mais surtout, il faut écouter son cœur et puis faire ce qu'on a envie. Voilà.
Et puis,
faire ce qu'on a envie, c'est pas faire n'importe quoi, c'est réfléchir, se poser, mais essayer d'être en accord avec soi-même et ses convictions, quoi. C'est comme ça qu'on fera les choses le mieux et qu'on s'apportera, qu'on se fera du bien et qu'on fera du bien aux autres.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, bon, après... on est toujours confronté à des difficultés au quotidien, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et puis on a toujours des choix à faire, et bah, à chaque moment, il faut se poser, arriver à se poser les bonnes questions et trouver les réponses. Et ça, c'est chacun qui peut le faire, personne d'autre. Mmh. Et du coup, voilà, moi, je fais pas forcément tout ce que je veux et tout ce que j'aime. Il y a des choses plus difficiles, et puis ce qu'on pourrait appeler des compromis, même si... par exemple, j'aurais beaucoup aimé travailler en traction animale, mais je me suis aperçu que physiquement, j'y arriverais pas.
Ouais, que ce serait pas.
Ils n'en avaient pas les compétences, le savoir, et que voilà, j'essaye d'évoluer et d'apporter ma petite graine à l'évolution de la société dans laquelle on vit, tout en la critiquant, mais en y étant actif aussi. Voilà. Et faire pour le mieux.
Et du coup, en fait, c'est comme grâce à Terre de Liens que... Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de... C'est une asso, c'est ça, Terre de Liens?
Alors, je ne vais pas rentrer sur l'explication de ce qu'est Terre de Liens, parce que c'est une structure complexe, mais en gros, c'est une structure qui a été montée, notamment en collaboration avec la société financière, la NEF, pour permettre... puisque l'accès au foncier est extrêmement difficile et donc, comme je disais tout à l'heure, plutôt coûteux. Ouais. Donc une installation agricole, elle demande beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'argent, sans parler des grosses structures agricoles aujourd'hui qui sont intransmissibles, hein, puisque c'est des structures qui peuvent, en comptant le matériel, les terres, qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros, quoi. Donc c'est imprenable, à part pour des gros financiers. Donc l'accès, la structure a été montée pour permettre, conseiller déjà, pour l'accès aux fonciers agricoles, et surtout monter une structure pour... C'est-à-dire que des gens de la société civile peuvent prendre des parts dans une société, et cette société va acheter des terres qui seront ensuite louées, louées à un agriculteur qui a un projet, et donc ce fermier pourra louer chaque année, donc pour des sommes qui sont quand même pas très élevées, alors qu'un achat aurait créé un endettement à un agriculteur, un jeune agriculteur qui veut s'installer, sachant qu'il a encore du matériel à acheter, des bâtiments à installer, etc. Quoi.
Oui.
Donc il y a beaucoup de choses à démarrer. Et le fait d'être simplement fermier sur des terres permet de soulager. Voilà, et sachant que aujourd'hui, le gros problème du foncier, il est lié au conflit qu'il peut y avoir entre déjà l'urbanisation, qui prend énormément d'hectares.
Ouais.
Malheureusement, souvent des très bonnes terres autour des villes, plates. Alors qu'on abandonne beaucoup de terres en pente sur les coteaux, dans les montagnes.
Ouais.
Et puis la course à l'agrandissement des agriculteurs qui ont toujours besoin de plus de surface.
Ouais.
Puisqu'ils se mécanisent, et qui dit mécanisation de plus en plus performante dit possibilité de cultiver de plus en plus d'hectares pour une seule personne. Voilà, donc un peu de toutes ces difficultés qui font que les agriculteurs qui veulent s'installer ont souvent rencontrent ces difficultés-là pour trouver des hectares disponibles.
Et alors du coup, Terre de Liens, ils ne financent pas que des projets d'agriculture bio, alors ça peut être du long bio.
Ils sont, c'est pas exclusivement bio, mais c'est orienté...
C'est quand même orienté vers...
Un respect des terres, et donc non-utilisation de produits chimiques, enfin voilà. En gros, c'est l'agriculture bio, mais c'est...
Oui.
C'est pas une obligation stricte, quoi.
D'accord. Et
j'invite les personnes intéressées par ces projets donc à contacter Terre de Liens, et notamment les gens qui auraient de l'épargne à placer.
Oui, parce qu'on peut faire
Terre de Liens,
on peut aider aussi. Voilà, on peut aider ces.
Indirectement, en passant par Terre de Liens, ça permet d'aider des agriculteurs jeunes ou pas qui veulent s'installer ou asseoir une activité localement intéressante en faisant un apport, en prenant des parts qui serviront à soutenir tel ou tel projet.
C'est super, d'accord.
Voilà.
Et est-ce que, ça va être une question vraiment très 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 bête, hein. Tu as souvent été cité en exemple par rapport à l'agriculture bio, tu as participé à plein de trucs dans des films, etc. Et est-ce que tu sais pourquoi tu as souvent été cité en exemple comme ça? Parce que c'est très difficile de trouver des paysans boulangers comme toi ou
enfin. Non, non, il y en a pas mal qui s'installent et qui ont le désir de monter des projets comme ça.
Ouais.
Je pense pas que j'ai été cité en exemple, non. C'est.
Non, enfin, cité en exemple. C'est pas cité en exemple, c'est mal, c'est mal formé.
J'ai intervenu comme aujourd'hui.
Oui, voilà, comme aujourd'hui. Oui, mais moi je te connais. Enfin.
Articles.
Bon, j'ai entendu parler de toi localement et pas, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je me posais cette question.
Ouais, c'est notamment donc par l'association Terre de Liens qui a pris de l'ampleur et qui a été beaucoup sollicité puisqu'il y a beaucoup de demandes.
D'accord.
Dû essentiellement aux difficultés d'accès aux fonciers.
Ouais.
Donc, vu que je suis en fait le premier fermier Terre de Liens.
Ah, t'es le premier, d'accord. Ouais, d'accord.
Voilà, c'est le premier projet qui a été soutenu, c'est notre projet. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été sollicité par de nombreux médias. Voilà.
Ok. Bah écoute, nous allons terminer l'émission tout de suite. On va mettre un morceau de musique. Oui, bon bah. Ouais. Il faut qu'on continue encore une petite minute en fait. Donc, parce que sinon après, il va y avoir du blanc. Est-ce que tu voudrais donner d'autres informations importantes donc dans la Drôme auxquels les auditeurs pourraient participer, aider, etc. Je crois que tu organises aussi des fois tu fais venir des gens qui viennent observer ton travail sur ta ferme. Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? Bon, écoutez, beaucoup de demandes, oui, sur des gens intéressés ou curieux de voir notre travail et comment on fait.
C'est-à-dire qu'on peut te démarcher individuellement comme ça, si on veut venir voir comment tu bosses et comment ça se passe une journée, ou non, tu prends, c'est avec des groupes, enfin.
Non, je suis pas du tout structuré, donc il y a des gens plutôt individuels, ouais, qui me contactent pour venir nous voir ou voir comment on travaille, prendre des renseignements. Voilà, parce qu'on, y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'ils travaillent comme nous. On fait le pain tout à la main, avec un levain naturel, etc. Donc, oui, mais on n'est pas structuré donc pour accueillir.
Pour accueillir comme ça plein de gens.
Non.
Ouais. En tout cas, moi je confirme, ton pain est excellent. J'ai eu l'occasion d'en manger plusieurs fois le matin et c'est vrai qu'il est, vraiment. C'est extraordinaire quoi. Et de savoir qu'en plus c'est produit localement et que ça permet de soutenir une certaine forme de comment dire de d'exploitation agricole avec des idées derrière, c'est vraiment génial. Donc là je crois qu'on va terminer l'émission. Je te remercie beaucoup Michel Vignat pour ton intervention et puis dis au revoir aux auditeurs, je leur remercie pour leur patience et leur écoute et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Bonsoir.
Bonne soirée, salut.
Demain sera un autre jour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, tu trouveras l'amour.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la chance. La vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, en demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain celui qui le poursuit.
j'arrête, c'est promis.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, c'est sûr, on vous l'a dit.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, ceci, demain, cela.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, nous disons tous demain. Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.